France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon invité aujourd'hui s'appelle Tigran Kazazian, musicien, oudiste, compositeur, né au Caire, en Égypte, et il nous vient de Yerevan, capitale arménienne. Cher Tigran, je vous espère bien installé dans les fauteuils de Chrétien d'Orient, mais j'aurais dû vous demander d'amener votre oud. Je sais pas, j'ai dû penser que vous ne sortiez jamais sans lui. Bob Marley disait qu'il dormait avec ses guitares pour qu'elles ne prennent pas froid la nuit. Est-ce que vous faites pareil avec votre oud ?
Peut-être pas exactement pareil, mais oui, le oud, c'est un instrument très fragile, très difficile à transporter pour voyager avec, et aussi très sensible aux températures à la maison. Donc, c'est sûr que oui, pour le oud, il faut une attention spécifique et oui, et beaucoup de préparation pour les voyages.
Vous pensez qu'un instrument peut prendre froid ?
Oui, oui, bien sûr. Oui. Le bois, les cordes qui se désaccordent à cause de la température, chaud ou froid d'ailleurs. Mm-hmm.
Pour nos auditeurs qui auraient un petit doute, le oud, c'est ce luth oriental aux manches brisées qu'on retrouve dans le vaste ensemble de l'Orient, du Maghreb à l'Afghanistan, de l'Anatolie au Caucase, et donc on croit le connaître. Jusqu'à ce qu'une corde vibre, et là, soudain, nous sommes téléportés dans un pays cosmique, à mi-chemin entre la prière, la lévitation et la sieste mystique. Vous êtes d'accord, Tigran, avec cette définition ?
Oui, oui, c'est un instrument, un très bel instrument, avec un son vraiment unique et très profond. C'est vrai qu'il y a tout de suite un pouvoir, je pense, d'amener une espèce de conscience, si on fait ce que vous dites, c'est-à-dire jouer une seule note et écouter la résonance. C'est oui, un instrument très, très profond.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu cet instrument ?
La première fois, non, parce que comme mon père est compositeur et oudiste,
Georges Kazazian,
oui, donc j'ai écouté depuis que je suis né, donc je me rappelle pas la première fois. Par contre, je me rappelle la première fois où je l'ai vraiment écouté avec plus de conscience et de compréhension à l'âge de 19 ans, et c'est là que c'était un événement fondateur qui m'a fait ensuite commencer la musique. D'abord en écoutant la sienne.
Ah oui, c'est ça, mais vous faisiez de la guitare déjà à l'époque, non ?
Après ça.
Ah, c'est après.
C'est après.
Vous avez entendu le oud et vous êtes dit, je vais faire de la guitare.
Oui, j'ai entendu sa musique et là, je me suis dit, ça me donne envie.
Et la première fois que vous avez décidé de jouer du oud, c'est quand ?
C'était à peu près 4 mois plus tard, 4 mois après la guitare, une fois que j'ai réussi à l'accorder, c'est un peu plus compliqué que la guitare. Donc, quand j'ai été un petit peu à l'aise avec la guitare, j'ai pris le oud et là, je ne l'ai plus lâché.
Ah oui, c'est ça. En plus, c'est un instrument, en effet, qui se désaccorde tout le temps. Ça peut rendre fou, parfois.
Oui, des doubles cordes qui...
Oui, c'est ça. Combien vous avez de oud à la maison ?
À la maison, en Arménie, j'en ai peut-être un peu moins qu'une dizaine.
Mm-hmm. Et vous m'avez dit autre chose en préparant cette émission.
En Égypte, mon père, qui est passionné de fabrication aussi des ouds, des bois, des différents vernis, de tout ce qui va avec le son de l'instrument même, lui, il en a beaucoup plus, mais je ne sais pas combien.
J'ai ouï dire une cinquantaine, enfin,
peut-être.
C'est peut-être une légende. Et quand vous jouez du oud, dans quelle langue vous pensez ?
Ah, je ne pense en aucune langue. Justement, c'est le pouvoir de la musique qui, je pense, est la langue universelle du monde. Donc, je ne pense pas en langue, sauf très rarement si je chante des mots ou quelque chose. Mais sinon, non, pas de langue, juste le son pur, c'est lui qui nous guide.
Parlez-nous un peu du quart de ton, cet espace si particulier où se glisse cette sorte de mélancolie orientale, mais aussi sa gaieté, son art de la nuance et de la modulation.
Oui, c'est une subtilité qui est très, très intéressante et qui, pour les instruments qui n'ont pas de fret, comme le violon, le oud, les contrebasses, violoncelle, tout ça, c'est très intéressant à utiliser justement pour amener cet aspect oriental, même si on peut aussi faire sans, c'est pas une obligation, mais ça amène toujours une richesse en plus, une couleur en plus.
Vous êtes né au Caire, vous avez vécu en France, un peu je crois, au Canada aussi, et vous êtes désormais en Arménie. Où est-ce que le oud sonne le plus juste ?
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en Arménie que je me sens bien. Pour l'instant, ça fait 13 ans que je suis en Arménie.
À Yerevan ?
À Yerevan. Et la ville est assez, je pense, propice aussi justement à la créativité parce que c'est pas une très grande ville, c'est assez calme, beaucoup de sécurité, donc on se sent bien là-bas.
Dans vos compositions, on entend souvent une tension entre la ferveur et le silence, la contemplation. Est-ce que vous pourriez dire que se joue dans la musique, dans votre musique, une sorte de lutte spirituelle ?
Peut-être, oui, c'est une
lutte,
façon de le voir.
L-U-T-E et pas L-U-T-H.
Oui, bien sûr qu'il y a une lutte spirituelle dans la musique, dans nos vies, dans le monde, à chaque instant. Je ne sais pas comment la définir forcément, cette lutte, mais c'est sûr qu'il y a du silence, comme vous l'avez mentionné, aussi de la tristesse et de la joie. Le calme et la force aussi, j'espère, mais c'est les éléments dont on a besoin pour faire face au monde tel qu'il est, je pense, aujourd'hui, qui est rempli de joie dans beaucoup de choses, rempli de tristesse avec toute la violence, tous les enfants qui meurent tous les jours et tout ce qui se passe. Donc notre musique, si elle est sincère, je pense qu'elle doit refléter le monde, pas juste une idéalisation du monde ou le contraire.
Je rembobine un peu, vous avez passé donc votre enfance au Caire.
Oui.
Bon, nous sommes chez Chrétien d'Orient, donc je dois mettre les pieds dans le plat. Quelles sont les sonorités sacrées qui ont accompagné votre enfance? Est-ce que vous alliez à l'église arménienne? Est-ce que vous avez entendu la liturgie copte? Et qu'en reste-t-il dans votre oreille aujourd'hui?
Oui, je pense que toutes les religions qui étaient présentes au Caire sont dans mes oreilles, c'est sûr. L'église arménienne, où je suis allé depuis que je suis né, où j'ai été baptisé. Donc c'est sûr, copte un petit peu moins parce que j'étais pas trop dans les églises coptes, disons. Mais oui, en Égypte, on entend dans la rue aussi beaucoup de prières,
oui.
Partout.
Vous en connaissez ?
Non, personnellement non.
Mais vous parlez arménien ?
Je parle arménien,
donc
oui.
C'est pas très compliqué d'apprendre une prière en arménien.
Non, c'est sûr.
Et entre Beyrouth, le Caire, Yerevan, Paris, qu'est-ce que ça signifie être de tradition chrétienne d'Orient quand on compose une musique non liturgique?
Moi, je sais pas. Pour moi, c'est plus de s'inspirer aussi symboliquement peut-être de quelques figures, que ce soit le Christ, que ce soit d'autres prophètes, d'autres religions en général. C'est plus si la sagesse existe, donc elle devrait venir de partout dans le monde de façon égale, si quelqu'un a vraiment une sagesse à partager. Donc mais oui, c'est sûr qu'il doit y avoir des éléments non seulement chrétiens, arabes, d'autres cultures, mais aussi de cultures beaucoup plus lointaines qu'on a écoutées, indiennes, japonaises, enfin j'espère avoir...
Bien sûr, mais d'ailleurs, le makam oriental, qui est cette espèce de mode, nous vient d'Inde, et en Inde, je crois qu'il y avait 700 modes ou quelque chose comme
oui,
ça.
Des gammes musicales.
C'est ça, c'est des gammes musicales.
Exactement.
Alors, j'ai lu quelque part, est-ce que c'est vrai que votre musique a été utilisée dans des documentaires de télévision liés aux chrétiens d'Orient, notamment quelque chose sur le génocide des chrétiens en Turquie? Et puis un autre documentaire, 2 mois après le drame, Les chrétiens se relèvent, vous le saviez ?
Oui, je le savais, on travaille souvent ensemble, on s'entend très bien, et beaucoup d'autres émissions d'ailleurs, oui.
Et vous collaborez également avec d'autres musiciens arméniens, puis chrétiens d'Orient, je pense par exemple au fabuleux joueur de doudouk Arsène Petrosian.
Oui.
Pouvez-vous nous dire quelques mots, à la fois sur le doudouk et sur lui?
Ah oui, Arsène, c'est un grand ami que j'ai rencontré au conservatoire en Arménie il y a presque 13 ans. Et depuis, j'avais toujours envie de collaborer avec lui, de l'inclure dans mon projet. Et c'est ce que j'ai fait en 2018. Ensuite, il a été absent pendant quelques temps. Et là, je suis très heureux qu'il soit à nouveau avec nous. Je pense que notre amitié, le doudouk, le oud et la musique que l'on fait en général, tout ça se marie très bien ensemble. Et ouais, c'est un plaisir.
Le doudouk, il me semble toujours être, j'allais dire, presque l'instrument le plus sacré. C'est quelque chose de vraiment céleste.
Oui.
Pour les Arméniens, encore, a fortiori.
Oui.
Mais vous pouvez un peu nous décrire le doudouk? C'est une flûte?
C'est un instrument avant arménien qui est fait de bois d'abricotier, qui a été très popularisé par un artiste en particulier, Jivan Gasparian, qui est mort il y a quelques années, avec beaucoup de films, de bandes-sons de films comme Gladiateur et d'autres. Donc c'est comme ça que ça a été vraiment popularisé, et maintenant c'est devenu très connu.
Mais dès qu'un doudouk commence, en fait, on bascule dans une espèce de musique, j'allais dire, désertique et méditative.
Bien sûr, la méditation dans le souffle, et ce souffle un peu presque suffoqué et en même temps très pur, C'est magnifique. Après, il n'est pas forcément que pour la tristesse, parce que beaucoup de gens associent le doudouk, surtout en Arménie, avec une émotion triste, mais il peut être utilisé de plusieurs façons.
Je vais vous parler de vos parents, Tigrane.
Oui.
Votre mère est bretonne,
oui.
Historienne.
Oui.
Elle a soutenu une thèse sur l'Égypte. Elle a appris l'arabe et l'arménien.
Et entre autres, oui.
Oui, entre autres, parce que je sais que vous parlez beaucoup de langues dans la famille. Vous en parlez 5, vous.
Oui.
Que vous a-t-elle transmis de ces histoires d'amour et de culture?
Oui, elle a fait une thèse sur les Arméniens d'Égypte, avec quelque chose de très spécifique, mais je ne sais pas exactement quel siècle, quelle époque exactement. Mais non, elle m'a transmis, la passion déjà, la passion de... Elle a toujours été passionnée, donc cette passion, c'est quelque chose qui peut aussi nous sauver dans la vie, parce que si on a une passion, et si on la trouve... Si on la vit, on peut découvrir le monde d'une autre façon, beaucoup plus intense peut-être et intéressante. Donc c'est surtout ça qu'elle m'a transmis, la passion et le travail. Il faut travailler dur pour chaque chose, ce qui va très bien avec l'instrument, parce que l'instrument, il demande beaucoup de travail tous les jours. Et voilà, je faisais du sport aussi quand j'étais petit, donc du tennis. Haut niveau. Donc c'était
vous
aussi...
pensiez que vous seriez plus tennisman que
joueur
de
l'époque,
wood.
Oui, à l'époque.
Bon, la forme d'une raquette de tennis ressemble un peu à celle du wood.
Exactement, il y a des cordes.
vous avez déjà joué, vous avez déjà fait un concert avec une raquette.
Avec une raquette.
Et votre père, vous avez alors Georges Casazian, on le cite souvent quand on parle de vous, puisque vous travaillez ensemble. C'est un compositeur et un joueur de wood célèbre.
Oui.
Vous avez ensemble monté un projet qui a été assez court, qui avait pour nom Nour. Nour, c'est à la fois en arabe la lumière, et en arménien, c'est la pomme-grenade.
La grenade.
Oui. La grenade, la mais grenade. Pas la grenade, l'arme. On parle bien du fruit.
Du fruit, oui, qui est aussi un des symboles de l'Arménie.
C'est ça. Qu'on retrouve d'ailleurs sur les hachar, c'est-à-dire ces petites stèles, enfin ces petites ou ces grandes stèles célèbres.
Gravées, oui, exactement, de pierre.
Pourquoi, c'est quoi cette histoire de grenade, le symbole, vous ne savez pas?
Je ne sais pas, non, je ne connais pas la source, mais je sais que c'est un des symboles de l'Arménie, avec l'abricot aussi.
Oui.
Mais je pense que la grenade est un symbole dans plusieurs religions et plusieurs cultures. Mmh. Je crois pas que c'est que les Arméniens.
Pourquoi avoir appelé ce projet Nour?
C'était peut-être pour faire un lien aussi entre justement l'Égypte et l'Arménie. Parce que moi, à l'époque, j'habitais déjà en Arménie. Mon père était en Égypte. En plus de ça, c'était peut-être aussi une description un petit peu de la musique qui est remplie de symboles, d'émotions, de couleurs égyptiennes. Mmh. Mais aussi maintenant arménienne, grâce au fait que je vis là-bas et que j'ai appris aussi à découvrir un peu plus la culture arménienne, plus en profondeur. Donc c'était, je trouvais une belle association
une belle
entre les deux.
C'était un dialogue de oud entre votre père et vous, Nour.
Oui,
c'était un projet musical.
Père et fils, dialogue père et fils. On a fait des concerts en Arménie, on en a fait aussi en Égypte à l'Opéra du Caire. Et voilà.
Et quand vous dites que ça vous a appris par là à renouer peut-être encore plus avec l'Arménie, vous avez donc sans doute été aussi frappé par ces chagrins, et notamment des chagrins récents. Je vous entraîne pas non plus trop sur le terrain politique, mais chagrins qui se sont passés avec le Haut-Karabakh, par exemple, enfin l'Artsar,
oui.
En 2022-2023, enfin 2023 précisément. Vous en avez senti les répercussions, les échos
Bien sûr, on l'a senti très fort, et puis... La guerre en 2020, 44 jours. Ensuite, 2021, 2022, il y a eu aussi des attaques très meurtrières. Et ensuite, en 2023, l'exil. Donc, c'était vraiment, oui, 3-4 années de suite qui étaient... pour moi, c'était surtout 2021 et 2022 où je sentais que l'Arménie était sous danger de son existence même. On le sentait, le moral n'était plus là en Arménie. Donc, oui, c'était des années très difficiles, et surtout pour les soldats qui sont morts et les gens qui ont été déplacés par milliers.
Bah, les 120 000 ou 130 000 déplacés d'Artsar, qui sont donc des Arméniens du Haut-Karabakh qui ont dû fuir en 48 heures chassés par l'Azerbaïdjan, sont ensuite arrivés à Yerevan, et entre autres, et ensuite ils se sont répandus dans toute l'Arménie ou sont partis en diaspora en Europe. Et puis, on m'a raconté cette petite histoire, il y a un café culturel qui est ouvert au cœur de Yerevan, qui s'appelle le Tumanian's Art, pour tous les déplacés d'Artsakh, et ils font notamment de la poésie, de la littérature et de la musique. Donc la question que j'allais vous poser, parce que c'est le refuge de cette solidarité, de cette gaieté, notamment dans la musique. Est-ce que vous pensez que la musique peut être une sorte de diplomatie douce ?
Oui, enfin, c'est sûr que la musique, c'est aussi politique, c'est aussi diplomatique. Après, tout dépend dans quel sens vous
elle peut réconcilier les peuples, ou les cœurs, en tout cas.
Bien sûr, la musique, les artistes, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, avant qu'il y ait les guerres ou ces guerres-là, les artistes collaboraient ensemble. Les artistes arméniens avaient un grand rôle en Turquie. Donc, c'est sûr que l'art, c'est un des ponts les plus importants. Après, si c'est pour précisément des collaborations artistiques, il faut aussi qu'il y ait la chimie individuelle entre les deux artistes ou les deux groupes, mais oui.
Vous avez déjà joué dans une église ?
Pour la première fois à Strasbourg, il y a quelques jours, pendant le festival Sacrée Journée. Ouais. Donc c'était la première fois, on a joué à Strasbourg dans une église et le lendemain en Allemagne dans une église aussi.
Qu'est-ce que vous avez senti comme résonance ? Ça change un peu la nature de l'interprétation ?
Oui, bien sûr, on a adapté le format aussi, on n'avait pas de percussionniste ce jour-là, on a choisi aussi le répertoire en fonction de ça, et puis oui, c'est impressionnant, surtout cette église à Strasbourg qui était très, très grande et très belle. Oui, oui, non, c'est sûr que ça a un impact, bien sûr, le lieu où on joue, c'est très important.
Vous vous sentez plus proche d'un moine du mont Ararat ou d'un jazzman du Caire ?
Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre.
Ou à mi-chemin ?
Peut-être à mi-chemin, oui. Peut-être à mi-chemin.
Est-ce qu'on peut moderniser le sacré Tigrane ?
Oui, je pense que par nature, il est lui-même moderne, puisque tout ce qui est en vie, la vie est sacrée, et puisqu'on est en vie aujourd'hui, donc on est aussi moderne, puisque c'est le dernier moment sur Terre. Tout de suite. Dans une seconde, ce sera le prochain, et ainsi de suite. Mais bien sûr, toute vie est sacrée. Et...
Donc ce n'est pas détériorer le purisme d'une tradition. Au contraire, on peut recycler et réinventer sans cesse.
Après, si c'est précisément en fonction par rapport à la musique et par rapport aux musiques sacrées, ça, je ne sais pas, moi, je ne le fais pas personnellement, parce que... Il faut respecter aussi les choses telles qu'elles sont, comme elles ont été créées. Mmh. Donc oui, des fois c'est bien d'avoir des modernisations un petit peu, où il y a des choses qui sont très belles, mais c'est toujours un terrain un peu risqué. Moi je n'ai pas trop ce problème, puisque toute ma musique, ce sont des compositions originales.
C'est ça.
Donc moi je ne reprends pas de choses autres.
Et nous avons parlé de transmission, notamment avec vos parents. Votre nouveau projet, celui qui vous occupe ces temps-ci, qui est, je crois, aussi au cœur de votre futur album, a pour nom Sacred Son ou Sons.
Sons, avec un S.
Sun, donc comme le soleil.
Les soleils sacrés.
Les soleils sacrés.
Mais en anglais, sons, c'est aussi le phonétiquement les fils, mais mm-hmm. ça s'écrit différemment. Et donc, c'était pour moi un message pour les enfants. Et justement, pour reconnaître le sacré de ces enfants-là qui sont en train de, dans toutes ces guerres, comme on en a parlé précédemment, qu'il y a de la violence partout et des enfants qui meurent. Moi, je trouve ça, c'est le plus absurde de toutes les choses au monde. Et en plus de ça, c'est aussi le soleil pour représenter cette énergie vitale et créatrice qui existe naturellement chez les enfants et qui souvent peut se perdre avec le temps. Et c'était pour moi aussi un rappel de l'existence sacrée des enfants et aussi l'importance pour les adultes de comprendre leur petit soleil qui est à l'intérieur et de le préserver et de le cherish, comme ils disent en anglais, vraiment de le préserver avec amour.
Mais là, on sent que vous êtes devenu père, Tigrane.
Oui,
plus seulement. Est-ce que vous êtes plus un fils ou plus un père ?
Oui, les deux. Et puis spirituellement aussi, dans notre lien aussi à la spiritualité, on est aussi fils, on est aussi père. Mm-hmm. Donc oui, tout ça est très important. Et puis
que vous inspire la notion d'héritage ?
Héritage, c'est pour moi, ça m'inspire de reconnaître la beauté, l'importance de certaines choses qui ont été faites avant notre existence. Et c'est déjà de reconnaître ça, ensuite de l'utiliser ou pas pour soi-même, selon ce qu'on fait, mais de le reconnaître et de le respecter et de l'honorer.
Est-ce que vous avez un mot de la fin ?
J'espère que cette année, les années qui viennent seront des années où tous les peuples pourront dialoguer, collaborer artistiquement au lieu de se faire la guerre, surtout. Mmh.
Écoutez, le ciel vous entende, et certains hommes aussi, j'espère.
Oui.
Je vous propose qu'on se quitte un peu plus tôt pour qu'on puisse entendre un peu de votre musique avec le titre Blue Tango. Merci beaucoup, Tigrane.
Mais c'est moi qui vous remercie.
C'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès, réalisée par François Connac et préparée par Claire Poinsignon. À la technique, Philippe Thibault. Merci beaucoup, à très vite et bon dimanche.